Bible, parce que c'est la parole inspirée de Dieu. Si vous n'avez pas de Bible, prenez ce petit papier. Je vais le corriger au fur et à mesure que je rentrerai dans la prédication. Voilà, on va présenter notre Bible, ou la petite liste de versets à Dieu. Ce qui est important, c'est le verset lui-même. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Et non pas l'index. Merci Seigneur pour ta parole. Je te présente ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Elle dit la vérité. Je crois que ce qu'elle dit, que je peux posséder, je l'ai déjà. Je crois que tout ce qu'elle dit que je peux faire, je sais le faire. Et je le fais. Et je crois que tout ce qu'elle dit que je peux être, je peux l'être. Je vais maintenant écouter la semence incorruptible de Dieu, et je proclame qu'au travers elle, je ne serai plus jamais pareil, car je vais aller de grâce en grâce avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On aime bien faire cette déclaration ici, à la vie comblée. Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui, on va continuer de parler de la foi. La foi, Pasteur Ken en a déjà parlé dans toute une série. C'est pas exactement la suite, mais c'est une prédication qui démarre de l'autre côté de la montagne. On a changé de verset. On a changé de... Pardon, on a changé de côté de la montagne. On aborde la montagne dans un autre côté. Aujourd'hui, on va parler... Là aussi, c'est une série de trois prédications. On va parler de la foi, bien sûr, mais d'abord, on va parler de la foi qui parle. Et de la foi qui parle et qui porte le fruit. On va d'abord parler de la foi de Dieu. C'est l'objet de cette prédication. La foi de Dieu. C'est la foi qui parle et qui porte le fruit, la foi de Dieu. C'est celle qu'il a exprimée pour la création du monde. Dieu a exprimé sa foi quand il a créé le monde. Il a exprimé son verbe, le verbe créateur. C'est quoi ce verbe? Ça, c'est important de bien le comprendre et de savoir de quoi on parle. Le verbe, c'est la parole de Dieu qui porte en elle la puissance qui crée. Parole de Dieu qui porte en elle la puissance qui crée. C'est la traduction du mot grec « logos ». Mais la Bible dit aussi que le verbe, nous savons que c'est la seconde personne de la Trinité, le verbe. Lisez Jean 1, 1-4. Et voilà ce qu'on lit. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. » On parle de qui là? On parle du Fils de Dieu. Celui qui, par la suite, va prendre chair. Elle était au commencement avec Dieu. Elle a toujours été avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vérité. Jésus est la vérité. Et la vérité, c'est aussi le Verbe. Ce Verbe, cette puissance de création. Pourquoi parlons-nous de la foi de Dieu? Parce que Dieu, dans sa parfaite sagesse, a fait de nous des êtres vraiment exceptionnels. Aucun autre être de la création, ni les anges, ni les autres, de toute l'histoire de la création, ont reçu de Dieu ce même don, ce don divin qu'il a souhaité partager avec nous et avec nous seuls. Car, tout comme pour Dieu, notre parole, bien sûr, quand elle prononce les vérités de Dieu, notre parole est créatrice. Et c'est bien cela qu'il est important de comprendre ce matin. Dieu nous a fait comme lui. Il nous a fait comme lui par la manière dont il nous a créés. Et tout comme lui, Nous avons cette même puissance de création. Nous avons en nous le Verbe créateur. Et nous le tenons de Dieu. Cette nature nous a été donnée pour créer le bien, bien sûr. Mais elle peut être aussi mal utilisée. Et si elle est mal utilisée, elle peut conduire au contraire de ce que Dieu avait prévu. Parce qu'elle fonctionne, ce pouvoir de création fonctionne dans les deux sens. Mais Dieu a prévu que nous puissions l'utiliser pour créer selon sa volonté. Que veut Dieu pour nous ? Dieu veut nous combler. Il veut nous bénir. Il veut aussi nous remplir de son esprit. Afin que nous puissions jouir de tous les jours de notre vie et que notre coupe déborde. C'est important ça, que notre coupe déborde. Parce que c'est parce qu'elle déborde, c'est parce qu'elle déborde que nous sommes capables de donner ce qu'on a reçu. C'est ça la volonté de Dieu pour notre vie. Donc, Dieu, à l'origine, en Genèse, a en premier créé le ciel et la terre, ensuite. Et si vous pensez que créer la terre a été compliqué, ben sachez qu'il a fait beaucoup plus. Il a créé aussi le ciel. Le ciel, c'est quoi ? C'est d'abord, au-delà de la couche atmosphérique, c'est un système solaire composé d'un soleil, de 9 planètes, et c'est encore plus. C'est un ensemble de systèmes solaires, dans un même amas de systèmes solaires, qu'on appelle galaxie. Et là-dedans, il y a près de 200 milliards de systèmes solaires. 200 milliards ! Dieu a créé tout ça pour nous, que nous puissions voir et contempler sa beauté. Oh. Alléluia ! Comme Dieu est grand. Quand Dieu crée, mais il crée en grand. Il crée vraiment très grand. Parce que ces amas d'étoiles, ces galaxies, il y en a des milliers. Et oui, Dieu a créé la Terre. Ça n'a pas été la tâche la plus difficile. Alléluia. Quand on voit comment ceci s'ordonne, on se rend compte de la perfection de Dieu. La perfection que Dieu a mis dans la création. Pour nous, simplement pour nous, pour qu'on puisse voir les étoiles. Et se dire, Dieu est grand. Rien n'a été laissé de côté. Tout a été pensé et créé à la perfection. En une seule fois. On peut dire que l'œuvre de Dieu nous dépasse totalement. Mais comprenez bien que si Dieu nous a donné quelque chose, c'est qu'il veut vraiment que tout ceci puisse nous servir. Même si ça nous dépasse. Rien n'a été fait dans le hasard. Tout a été prévu pour que nous puissions l'utiliser. Et parce que nous devons l'utiliser. Alors ce Verbe, ce pouvoir divin, ben Dieu nous l'a donné à nous aussi. Et c'est vraiment pour l'utiliser, chacun de nous. Si on lit Genèse 1:1, on lit « Au commencement, Dieu créa. » Dans la Torah, cela se dit « Elohim bara reshit. » Je pense que beaucoup de vous connaissent au moins ces trois mots de l'hébreu Elohim bara reshit. Alléluia. Ensuite, la Bible dit ce qui a été créé. Les cieux, donc, comprenez bien que c'est l'univers, le système solaire, les amas de système solaire, galaxies, et l'ensemble des galaxies dans l'univers. Et ensuite, la Terre. La Terre, c'est le foyer de l'homme. Il a d'abord créé l'univers et ensuite la Terre. C'est logique. Vous ne pouvez pas créer la Terre sans tout le reste. La Terre a besoin du Soleil. La Terre a besoin de l'action des autres planètes. La Terre est une partie de l'univers, une partie ordonnée de Dieu. Alors, quand les a-t-il créés ? Je dirais que ce n'est pas important. Probablement entre le verset 1 de Genèse 1 et Genèse 1:2, il a dû se passer un certain temps. Mais ce que nous sommes à peu près sûrs, c'est qu'ensuite Dieu a créé l'homme. Les exégètes disent que à peu près 6000 ans, 5 à 6000 ans. Mais comment les a-t-il créés ? C'est ça qui est important. Ce n'est pas quand, mais c'est comment. Dieu nous a créés en disant « Dieu dit ». C'est le mot « Elohim Amar ». Et le texte signifie exactement « Dieu appela ». Dieu nous a créés en nous appelant. Il appela et quand Dieu dit les choses, sa foi se met en action et elle prend existence. Parce que Dieu croit ce qu'il dit. C'est sa foi qui agit. Et sa foi qui a été mise en action entraîne la puissance de son esprit, parce que sa puissance de son esprit est délivrée quand Dieu prononce, quand Dieu appelle. Et Dieu dit que la lumière soit. Et en fait, la traduction exacte dit lumière existe. C'est exactement ce même principe que nous pouvons utiliser pour appeler ce qui n'existe pas. Dieu croit en sa parole, et sa parole prend forme. À chaque fois que Dieu parle, il libère par sa foi la puissance de création de son esprit. Nous devons croire la parole de Dieu et exprimer notre foi de la même manière. Et là, elle prendra forme, tout autant que la terre a pris forme. Parce que c'est la même puissance qui est délivrée, pas la nôtre. Ce ne ferait pas grand-chose. Mais c'est la puissance de Dieu qui est délivrée. Alléluia. La foi dans notre bouche peut libérer la puissance de Dieu. Peut-être que c'est important de bien comprendre ça. Et surtout, de le retenir. La foi dans notre bouche peut libérer la puissance de Dieu. La foi, c'est donc l'assurance de la victoire. Sur un seul mot, Dieu fait peser toute sa foi. Et ce mot va s'exécuter, il s'exécute. Et Dieu fait peser toute sa foi quand le mot s'exécute. Cette foi devient action. Et cette action donne du fruit. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est la même chose. Voilà comment Dieu nous a créés. Il reste à voir maintenant, on a vu quand, enfin quand c'est, on a vite sauté, on a vu comment, et il nous reste à nous maintenant de voir pourquoi. Pourquoi Dieu nous a créés. C'est sûr qu'on n'est pas, on n'a pas toute la connaissance de Dieu, mais on peut déjà comprendre son cœur. Et quand on comprend son cœur, on devine, on comprend que Dieu nous a créés parce que il voulait une créature à sa ressemblance. Il voulait parfaire sa création. Il voulait une créature qui puisse diriger sa création. Si on vient aux origines, on était destinés à gouverner sur toute chose en cette terre. C'est Dieu qui le dit. Adam, nous sommes destinés à gouverner sur toute chose sur cette terre. Parce que nous disposons de ce verbe créateur. C'est ce qu'on voit dans Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine, blablabla, sur toute la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Là, il y a une répétition. Ça veut bien dire que c'est important, il faut comprendre ça. Dieu créa l'homme à son image. Au verset 27, il rajoute, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez sur tout animal, sur toute la terre. Dieu a créé l'homme pour son plaisir d'être avec nous, de partager avec nous. Quelle joie à Dieu quand il descendait sur le jardin d'Éden et qu'il appelait sa créature. Quelle joie de partager. Voilà, comprenez le cœur du Père, de voir son enfant. Cela fit plaisir à Dieu de donner ce monde à Adam. Regardez, je viens de dire, et Dieu les bénit. Et en Genèse 1, 32, il ajoute, c'était bon, cela lui plaisait, et c'était bon. Cela fit plaisir à Dieu de voir sa créature. Tous les jours, dans le jardin, quand Dieu descendait, l'homme a été créé par Dieu, et c'était la dernière étape de la création. Cela fit plaisir à Dieu de nous donner sa nature. Par ce fait même, nous étions plus près de lui. Alléluia. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Faisons, le terme hébreu qui est traduit à ça, veut dire dans le sens offrir. Donc si on reprend ce verset, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, c'est offrons à l'homme notre image, et notre ressemblance. Alléluia. Image, dans ce sens-là, c'est la traduction du mot ombre, projection, contour. Ça veut dire aussi reproduction, imitation et réplique. Dieu nous a créés selon une projection de lui-même. Hein, ombre, projection, contour, reproduction, imitation, réplique. Nous étions comme lui. Comparable à lui, non. Exactement comme lui, non. Exactement, on ne peut pas l'être. Satan a essayé de lui ressembler, mais il a été chassé. Mais Dieu nous a fait comme lui. La même projection. Nous avons aussi la même capacité de reproduction de Dieu. En effet, on voit dans Genèse 5, verset 3, que Adam était âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Là encore, on voit le même mot. Adam avait la même particularité de Dieu, c'est de faire un enfant à sa ressemblance. C'est la Bible qui le dit. À sa ressemblance, selon son image. Et lui donna le nom de Seth. En quoi sommes-nous si différents des autres créatures de Dieu? C'est vrai que l'homme a reçu bien plus que les autres créatures, je disais tout à l'heure. On voit ça, on va prendre Genèse 2, 7. Et voilà ce que dit l'Éternel. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Alors ça, bien sûr, il a fait ça avec toutes les autres créatures. Là-dessus, rien de nouveau. Il a fait le corps. Comment il a fait le corps? De la poussière de la terre. Et c'est ce qu'il a fait avec toutes les autres créatures. Et la Bible dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Ah ça, il n'avait pas fait avant. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme, qu'est-ce qui s'est passé là? Et l'homme devient une âme vivante. Ah oui, ça c'est pas pareil. Ça, il n'avait pas fait avant. Donc Dieu, pour l'homme, a fait bien plus pour les autres créatures qui sont faites de chair, de sang, ou même d'autres créatures spirituelles qu'il avait faites avant. Dieu lui a insufflé sa vie, sa nature, son esprit, et donc cette même capacité de prendre conscience d'exister. Prendre conscience d'exister, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est conscient d'exister et que, comme on sait qu'on existe, on va chercher notre Créateur. Nous avons cette possibilité, nous avons cette fonction, je dirais, de chercher notre Créateur. Et ça, ça fait toute la différence. Ce que Dieu a fait de nous, ce sont des êtres conscients de la vie et qui vont chercher leur Créateur. Alléluia. Merci Seigneur. Donc l'homme, à l'image de Dieu, à la projection de Dieu, au contour de Dieu, va exister sous trois formes. On a vu que la poussière de la terre, c'est le corps, la chair. On a vu que un souffle de vie et l'homme devient une âme. Une âme, c'est le néphète ou la psyché en grec. Et une âme vivante, c'est l'esprit, le roi, le pneuma, si vous voulez. Donc l'esprit, c'est quoi? C'est le souffle de Dieu, c'est le principe vital de Dieu. C'est aussi le siège de la raison, de son immortalité. C'est là que nous devenons immortels, parce que nous avons reçu le souffle. Ensuite, esprit, ensuite une âme. Nous avons une âme, une intelligence. Dieu nous a donné une intelligence. Nous sommes capables de comprendre la Bible. Nous sommes capables de comprendre que Dieu nous a fait. Nous sommes capables de reconnaître que ceci est la parole inspirée de Dieu. Et ensuite, un corps. Donc nous existons de la même manière que Dieu sous trois formes. Pas les mêmes, mais nous sommes la projection de Dieu. On retrouve ces mêmes versets, ces mêmes explications un peu ailleurs dans la parole, notamment dans Job 27, au verset 3. Job dit, tant qu'un souffle restera, tant que l'Esprit de Dieu restera dans mes narines. Ce que dit Job, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Dans Zacharie 12, verset 1, on retrouve encore la même chose. Dieu qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de nous. Dieu qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de nous. C'est encore la même chose. Donc nous sommes capables d'exprimer le Verbe. C'est pour cela. C'est de la manière dont nous avons été créés. Et comment? On dira, mais comment Adam a exprimé le Verbe? On a un exemple dans la parole. Dieu dit à Adam de nommer toutes les créatures. Ainsi, Adam a donné à chacune des créatures une part de sa capacité. Chaque créature est différente. Et chacune a reçu ses propres caractéristiques. Comment? Mais par le nom que Adam leur a donné. Précisément par le nom qu'il leur a donné. En précisant, selon ce que Dieu lui avait dit de faire, Adam a donc non seulement donné un nom à chaque créature, mais aussi leur particularité, et même il va plus loin, il va donner aussi leur utilité à chaque créature. Ça, c'est l'expression du Verbe. Adam était le roi de toutes les créatures. Et Dieu dit que l'homme devait régner sur toutes les créatures de la terre. C'est ce qu'Adam a fait en nommant les créatures. C'est sûr que Dieu avait une relation très privilégiée avec Adam. Et Adam avait, à l'inverse, besoin d'avoir une relation privilégiée avec son Créateur. Et à cette époque-là, cette relation était parfaite. Elle était dans les deux sens, elle était parfaite. Dieu descendait sur le jardin d'Éden et disait, voilà ce que dit le Genèse, chapitre 3, verset 8. « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, il appela, il était en relation avec lui, et il dit, où es-tu ? » Et puis Adam répond, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. » Le contact était parfait. Quoiqu'au moment où ce verset se passe, il s'est passé un grand problème pour l'humanité. Mais même après sa chute, même après avoir trahi Dieu, Adam a gardé le reflet de cette dignité de Dieu. Le péché, certes, a déformé l'image que Adam avait reçue de Dieu, mais Adam n'avait pas perdu tout le reflet de la sainteté de Dieu. Il ne l'a pas, ce reflet n'a pas été totalement anéanti rapidement, instantanément. Lors de sa trahison, Adam a connu la mort, oui, mais il a connu la mort de l'esprit. Et avec le temps, il a fallu un millier d'années, et avec le temps, ça s'est répercuté sur le corps. Dans Genèse 5:5, on lit « Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. » 930 ans plus tard, se manifeste le fait qu'il a reçu cette mort spirituelle. Cette mort s'est propagée sur son corps jusqu'à sa mort physique. Ça a mis 930 ans. Alors c'est sûr que bien que Adam ayant perdu cette relation très intime avec Dieu, mais l'homme disposait toujours d'une certaine rémanence de sa nature divine, même si son esprit était mort. Mais, depuis le début, Dieu avait prévu un fantastique plan de réconciliation, un plan qui puisse satisfaire à sa justice et qui va respecter lui-même, parce que Dieu est juste. Cette rédemption que Dieu a mis en place avait pour but de restituer l'image qui avait été brouillée, l'image de Dieu qui avait été brouillée lors du péché, lors de l'entrée du péché, afin de nous rendre à nouveau semblables à l'homme par excellence, c'est-à-dire Christ, le second Adam. Jésus-Christ est la véritable image de Dieu, parfaite, et par la foi en lui, par la foi en Jésus, par la foi en Dieu, le croyant retrouve cette image, cette même image qu'il a perdue, qu'il avait partiellement perdue. Regardez, dans 2 Corinthiens 3:18, on trouve exactement ce que j'ai dit. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, l'image de Dieu, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Comment ? Par l'Esprit du Seigneur. C'est ça, cette œuvre de la rédemption. Par conséquent, lors de la nouvelle naissance, c'est cette nature qu'on retrouve. Tout aussi extraordinaire que ça puisse paraître, c'est la vérité. Nous redevenons comme Adam au premier jour. Pas exactement. Car si l'esprit, effectivement, est renouvelé, le corps qui a été contaminé par 5 ou 6 000 ans de pratique, depuis très longtemps, on va dire, va nécessiter une purification. Et ça, ça va prendre du temps. C'est sûr, ça ne va pas être instantané. Tout comme nos pensées non plus, on ne va pas les ramener à Christ, toutes nos pensées. On ne va pas les ramener en une seule minute. Ça va prendre du temps. Alléluia. Mais progressivement, par le travail du Saint-Esprit en nous, on va y arriver. Comment ? Ben la Bible nous dit comment faire. Elle nous dit qu'il faut faire le bon combat, que nous devons combattre le bon combat. Quel combat ? Ben le combat de la foi. Ce n'est pas une option. C'est une nécessité pour nous. Dans 1 Timothée 1, verset 18, on retrouve des versets intéressants. Paul dit à Timothée, « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon tes prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. » On retrouve la même chose dans 1 Timothée 6:12. « Combat le bon combat, 1 Timothée 6:12. Combat le bon combat, le combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. De quels témoins s'agit-il ? L'armée de Dieu, l'armée des anges et de tous les hommes sur la terre. Et enfin, la conclusion de Paul dans 2 Timothée 4:7 dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Pourquoi ce combat ? Pourquoi ce combat ? Pourquoi ? Parce que Satan et tous ses sbires savent bien qu'ils ne peuvent rien nous faire. Absolument rien. Ils ne peuvent rien faire eux-mêmes. Jésus a brisé son action. Mais l'ennemi va quand même s'attacher à nous faire faire de mauvaises choses. Lui ne peut pas le faire. Mais nous, nous avons quelque chose qu'il désire ardemment. Nous avons ce Verbe créateur. Et Satan, lui, il veut l'utiliser, ce Verbe, parce qu'il en est incapable. Et s'il nous pousse à l'utiliser, par de l'influence, par des mensonges, si le prince du mensonge, s'il nous pousse à utiliser le Verbe créateur, il va gagner. Et nous ne voulons pas qu'il gagne. C'est pour ça que la Bible dit « résistez-lui ». Nous avons l'arme que Satan désire. Et cette arme-là, s'il ne l'a pas pour lui, il l'a contre lui. Et cela, il en a très peur, parce que cela, il craint. L'expression du Verbe nécessite la puissance de Dieu. Mais Dieu nous a donné cette possibilité d'exprimer les choses, ces choses qui vont devenir réalité. Cet usage, ce principe créateur, nous donne la possibilité de créer des situations en déclarant de notre bouche de bonnes choses ou de mauvaises choses. C'est sûr que Satan, je disais, n'a pas de puissance créatrice. Ça, il le sait bien. Il va donc s'attacher à pervertir la parole, à pervertir les gens pour assouvir sa méchanceté. Il ne nous en veut pas que à nous, il en veut surtout à Dieu. Et pour lui faire du mal, il va s'attaquer au cœur de Dieu. Nous, sa méchanceté n'a pas de limite. C'est pour cela que nous devons être fermes. Satan agit comme un usurpateur et il n'a aucun droit. Cela veut dire que du fait de notre héritage, la manière dont Dieu nous a créés, Satan va essayer de détruire l'œuvre de Dieu. Alors, sans nous, il ne peut rien faire. Et nous, on ne va pas l'aider. On ne va pas l'aider ? Bon, alléluia ! Non, on ne va pas l'aider. Et si nous sommes contre lui, il va avoir très peur, parce qu'il nous craint. Pour lui, avec la parole, nous devenons un danger mortel, et il le sait. Mais tous ces mots que nous prononçons à tort et à travers, envers nos amis, nos ennemis, nos enfants, nos parents, sans que vraiment on s'en rende compte, ces mots sont utilisés par l'ennemi. Nous n'avons pas besoin de les prononcer. Ce n'est pas nécessaire. Parce qu'au travers de nous, l'ennemi va l'utiliser pour détruire des vies. A l'inverse, nos prières, elles ont la capacité de bloquer sa ruse, de bloquer ses plans. Alors, ne laissons pas l'opportunité à Satan de tout corrompre. Je vais partager avec vous une parabole de Jésus. C'est dans Matthieu 13, 36. Voilà ce que dit Jésus. Et voilà pourquoi il faut être attentif. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales. Et ceux qui commettent l'iniquité, ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous avons un ennemi, nous le connaissons, nous savons comment il agit. Jésus a fait le nécessaire. N'arrachons pas la graine qu'on a plantée dans le sol, ce qu'on disait tout à l'heure dans notre vie, sans la grandir, sans crainte. Jésus a tout fait. L'expression de notre foi est nécessaire. Les mots blessants que nous prononçons, qui ne devraient pas sortir de notre bouche, même pour rire ou pour rigoler, c'est dangereux. C'est même irresponsable de le faire. ces mots qui ont une puissance de création, utilisons-les pour bâtir, pour changer le monde. Ces mots-là ont la capacité de changer le monde. Ces mots-là ont la capacité de changer les gens, de changer leurs habitudes, de les faire venir à Christ. La Bible dit que les anges regardent l'Écriture et ne comprennent pas ce qu'il y a dedans. Ils essayent de le lire, mais ne comprennent rien. Les anges ne peuvent pas faire ce travail de porter la parole. Ils ne peuvent pas, et nous le pouvons. Nous, si nous le voulons, avec notre pouvoir créateur que Dieu nous a donné, notre pouvoir de création, nous pouvons changer les situations. Alors nous disons, oui, mais je lui ai répété 100 fois, il ne veut pas entendre. Et oui, mais c'est mes parents, c'est mes... dans ma parenté, ils me connaissent tellement que maintenant ils ne m'écoutent pas. Ils ne vont jamais m'écouter. C'est un mensonge. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La parole dit le contraire. Alors, quel rapport allez-vous écouter? Le rapport que vous entendez, vous disant « Non, je ne peux pas. Non, je n'arriverai pas. » Et vous savez ce qui va arriver? Vous n'y arriverez pas. Mais si vous écoutez la parole, si vous obéissez à la parole, si vous mettez en application votre foi, quelle foi? La même foi que Dieu a exprimée quand il a créé le monde. Cette foi dont nous avons mesure, c'est l'agrandir, changer le monde. Vous en avez le pouvoir. Parce que, par votre foi, ce que vous allez déclencher, c'est la puissance. Et vous croyez que cette puissance a une limite? Vous vous rappelez un peu ce qu'a fait Dieu? Il a créé l'univers. Je ne vais pas recommencer à vous détailler ce que c'est que l'univers. C'est vraiment grandiose. Et si Dieu a pu faire l'univers, ne croyez pas qu'il va faire des milliers d'églises, hein? Il ne peut pas le faire? Si, il peut le faire. Il peut aller au-delà. Il peut aller au-delà. Ça va prendre notre foi. Alléluia. Alors, ne bloquons pas notre foi par des paroles contradictoires, par des paroles qui n'ont pas de fondement, si ce n'est pour faire plaisir à l'ennemi. Mais on ne veut pas faire plaisir. Résister, c'est ce que dit la Bible, résister. Faisons le contraire. Faisons le contraire, mes frères. Mettons la parole de Dieu dans notre bouche. La Bible dit que ça ne suffit pas. Il faut mettre la parole de Dieu dans notre bouche et aussi dans notre cœur. Regardez Romains 10, au verset 8. Il dit, la parole est près de toi, dans ta bouche, pour agir, et dans ton cœur. Mettez la parole dans votre bouche et dans votre cœur. Dans Job 22, verset 22, il s'écrit, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Mets dans ton cœur ses paroles. Afin de quoi? Afin que nous soyons le porte-parole de Dieu. Ça vous plaît? Porte-parole de Dieu. Oui, je veux être le porte-parole de Dieu. Je veux être celui qui prononce la parole de Dieu. Je veux voir la parole de Dieu qui est prononcée dans ma bouche s'exécuter, prendre forme, devenir réalité. Voilà ce que Dieu nous demande pour ce siècle, en ce qui nous concerne. Alléluia. C'est aussi notre responsabilité d'être armé de la parole de Dieu pour l'utiliser. Car les mots que nous allons prononcer vont non seulement contrôler notre vie, mais aussi contrôler celle de nos proches. Vous savez, je vais vous dire une chose. Une discussion que j'ai eue récemment avec des amis, on a dit que l'ennemi n'est pas omniscient. Alors, si par notre action, nous, les chrétiens, on l'embête, on le titille, on ne le laisse pas en repos l'ennemi, il n'aura pas le temps de faire autre chose, il n'est pas omniscient. Alors nous devons combattre. On a la puissance pour ça. On peut le combattre. Et on peut l'occuper. Alléluia. On peut le laisser là où il est. On peut le tenir en échec. Jacques 3,10 dit, de la même bouche sortent les bénédictions et les malédictions. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. De la bouche sortent des bénédictions. Point. C'est tout. Veillons donc à ce que ce qui sort de notre bouche ne soit que des bénédictions, des supports que l'ennemi ne peut pas utiliser. Notre bouche est là sous le contrôle de notre esprit. Elle doit être sous le contrôle de notre esprit. On a établi tout à l'heure que la foi, pour être efficace, doit être unie à l'amour. C'est ce qu'on a lu dans le passage de Job, dans la bouche et dans le cœur. La foi, pour être utile et efficace, doit être unie à l'amour. Quand Dieu nous a créés, il a exprimé son amour, sa foi. Et sa foi, le support de la foi, c'était son amour pour nous. C'est ce que nous devons faire. exprimer notre foi avec notre amour. Et dans 1 Jean 3, verset 23, on lit « Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus, c'est ainsi son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus et que nous nous aimions les uns les autres, que nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. » C'est sûr que c'est par amour que Dieu nous a créés, pour qu'il puisse nous aimer et rester avec nous. Ce profond désir qu'avait Dieu de rester avec nous dans le jardin d'Éden, dans le jardin d'Éden. Dieu va chercher la compagnie d'Adam. Et c'est ce qu'il veut restaurer, parce qu'il nous aime et il veut être parmi sa création. Et Dieu veut être avec nous aujourd'hui, afin qu'au travers de lui, on ne manque de rien et que nous soyons dans la joie. Hébreux 11, 3 dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi que nous prenons pour acquises les bénédictions qu'il nous a réservées depuis la création du monde. » Je te remercie, Seigneur, que ces paroles puissent être enracinées en nous, qu'on puisse comprendre quelle est la profondeur de ton amour, profondeur et quantité d'amour que tu nous as donné en partageant avec nous le Verbe. Tu nous as fait comme toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de nous garder notre cœur d'abord. Garder notre cœur, Seigneur. Nous ayons ce profond désir d'exprimer ta parole. Ta parole prenne vie. Ta parole exécute la puissance de l'Esprit, de ton Esprit, Seigneur, pour changer ce monde, pour changer les habitudes, même celles qui nous paraissent impossible. Tout est possible à Dieu. Tout est possible, Seigneur. Merci de nous utiliser, de nous faire grandir dans ta parole. Nous restions près de toi, Seigneur, en ta présence. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous avons l'habitude dans cette église, le dimanche, d'offrir la possibilité à tous ceux qui seraient nouveaux dans le Seigneur d'offrir leur cœur à Jésus. Si parmi vous, il y a des personnes qui, aujourd'hui, ont été touchées par la parole de Dieu, des gens qui ont envie d'en avoir plus avec le Seigneur, d'être plus proche du Seigneur, de partager une vie avec Jésus comme Seigneur et comme Maître. Je voudrais que ces personnes puissent, aujourd'hui, tout le monde les yeux baissés, ces personnes puissent lever la main en disant, dans son cœur, Seigneur, je veux changer. Je veux donner ma vie. Je veux te donner ma vie. Pas aux hommes, mais à toi, Seigneur. Parce que je te reconnais comme mon Dieu. Je voudrais que cette personne puisse lever la main pour montrer à la création cette décision qu'il vient de prendre. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur. On va tous les yeux profondément ancrés vers la source qui est Jésus, dire en même temps un rappel de notre foi en lui. Père céleste, je m'adresse à toi au nom de Jésus. Je sais que ta parole déclare « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Je fais appel, Seigneur, à ton nom. Je sais que je suis sauvé. Et je te confesse de ma bouche, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur. Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité. Je suis sauvé maintenant. Je crois de tout mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu. Que Dieu l'a ressuscité pour me rendre juste devant le trône de grâce. Je te confesse aujourd'hui, maintenant, Seigneur Jésus. Amen. Merci.